Alors, Valérie Beaudoin, elle n'aura pas de difficulté à se trouver des activités pour 28 jours. Parce que on avance dans le temps, on se dirige tout droit vers un fameux rendez-vous présidentiel du 3 novembre, l'élection, mais avec beaucoup, beaucoup d'actualités très chaudes en fin de semaine. Bonjour Valérie.
Bonjour Paul.
Alors, selon toute vraisemblance, le président américain nommerait Mme Amy Coney Barrett comme remplaçante de la grande Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Et cette Mme Barrett, elle est non seulement une graduée, mais elle enseigne notamment à l'université très catholique de Notre-Dame à South Bend dans l'Indiana.
Oui, exactement. Il a vraiment choisi quelqu'un qui est à l'opposé de la juge Ginsburg. C'était la favorite depuis le début. Alors, il devrait la nommer ce soir à 17h. C'est une ancienne juge qui a nommé, une juge en fait qui a nommé à la Cour fédérale il y a peu de temps. Ancienne, justement, comme tu viens de le dire, professeure de droit. C'est une juriste, mais peu expérimentée comme dans son poste directement de juge. Elle a travaillé aussi avec le juge Scalia, qui est un ancien juge à la Cour suprême. Mais pourquoi ça la différencie de Ruth Bader Ginsburg? C'est vraiment au niveau de ses convictions. Parce qu'elle est anti-avortement, elle est conservatrice, elle est religieuse, elle est croyante et elle ne s'en cache pas. Et ça va vraiment être là-dessus qu'on va jouer lors de sa nomination pour lui demander si elle va être capable de mettre ses croyances de côté pour interpréter la Constitution et vraiment y aller purement avec le droit et non uniquement ses croyances personnelles.
Et là, les démocrates qui, rappelons-le, sont en campagne présidentielle, comment ils prennent ça, cette nomination qui pourrait être annoncée dès aujourd'hui?
Écoutez, je pense qu'il y en a un surtout qui est pas dans la campagne, il doit pas être très, très content. Et c'est Barack Obama qui s'est fait lui bloquer d'avoir cette nomination-là en année électorale. Alors finalement, les sénateurs républicains veulent aller de l'avant avec la nomination le plus rapidement possible. Et les démocrates se disent, on peut pas faire grand-chose parce que les sénateurs républicains sont majoritaires. Alors même s'il y a deux personnes qu'on sait, deux sénatrices qui devraient voter du côté démocrate, ils ont quand même la majorité. Alors ce qu'on veut faire, Paul, c'est qu'on veut demander à Madame Barrett, lorsqu'on va la questionner, c'est lui dire, est-ce qu'elle peut garantir qu'elle ne va pas avoir son mot à dire s'il y a une décision importante par rapport à l'élection du 3 novembre prochain en disant, écoutez, vous venez d'être nommé par le président Trump, comment ça pourrait pas être une décision partisane? Allez-vous vous mettre de côté et laisser vos collègues juges finalement décider de l'issue de l'élection? C'est ce qu'on va lui demander. Il y a des sénateurs démocrates qui ont déjà fait savoir leur couleur, mais est-ce qu'elle va dire oui? Les chances seraient assez minces, je vous dirais.
Alors, vous avez mentionné l'élection du 3 novembre. On s'y rapproche rapidement. Comment se fera la transition du pouvoir s'il y a lieu? C'est-à-dire, dans le cas d'une défaite de Donald Trump, cette semaine, on a fait grand cas du fait qu'il ne lâcherait pas le morceau facilement.
Oui, et on en a parlé, je crois, la semaine dernière en disant que la première des choses à prendre en compte, c'est que l'élection ne risque pas de se décider comme à l'habitude le soir du 3 novembre parce qu'il va y avoir ce vote massif par la poste. Alors, ça devrait se décider dans les jours suivants, peut-être même les semaines suivantes. Alors, on risque de contester les résultats électoraux et c'est pour ça qu'on dit que cette transition du pouvoir, est-ce qu'elle va être difficile? Et Paul, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais la déclaration choc du président de cette semaine qui a dit « je ne vais pas la garantir, je veux une élection qui va être faite dans la transparence » et en ce moment, c'est pas ce que j'ai, et il va peut-être avoir de la fraude électorale. Il a aussi joué un peu dans le jeu justement des médias pour faire de la controverse. Alors, je pense qu'il y avait vraiment cet élément-là quand même aussi de fait. Mais le danger avec tout ça, c'est les électeurs. Est-ce qu'ils vont se dire, mon vote va compter parce qu'il y a des menaces de fraude? Est-ce que je dois vraiment aller voter? Parce que c'est ça le problème, c'est ça le danger, c'est que les électeurs n'aient pas le goût d'aller voter, que ce soit d'un côté ou de l'autre le 3 novembre prochain. Mm-hmm. Mais hier, en Virginie, je vais te laisser l'entendre, il a quand même un peu tempéré ses propos. On écoute le président.
And we've got to go out and we've got to really work hard and we've got to watch this ballot scam because they're scamming us, okay? They're scamming us. And then they say, he doesn't want to turn over government. Of course they do, but it's got to be a fair election. You know, see, that's another scam. They don't mention anything about ballots. I say, got to be a fair election when they're losing ballots all over the place.
Alors, vous l'avez dit, il vient de tempérer, mais pas trop.
Mais...
autrement dit, en lançant comme prémisse, il y a de bonnes chances que cette élection soit truquée, c'est comme une préparation à dire « nous allons perdre, il va falloir que je cède le pouvoir ».
Oui, il a dit aussi qu'il n'y en aurait pas de transition de pouvoir finalement parce que c'est lui qui allait être réélu, parce que dans le cas contraire, ça serait uniquement s'il y avait une fraude électorale majeure. Et il y a vraiment des contradictions entre la Maison-Blanche et par exemple ce que veut dire le directeur du FBI qui dit on n'a pas de preuve qu'il pourrait avoir une fraude électorale en préparation vraiment au niveau du vote par la poste. Alors, on trouve ça intéressant la politique, mais ça va l'être encore plus peut-être en novembre.
Faisons un exemple avec le sport, oui. Valérie. C'est comme si on disait à la veille d'un match important, ouais, ça se pourrait qu'on perde. Alors, on est tous bien dire. Alors, si on perd, nous accepterons la défaite, mais de toute façon, le match risque d'être truqué, arrangé.
Oui, exactement. Dire on va perdre parce qu'eux, ouais, ils vont tricher. C'est dire ça vraiment. Dire ça d'avance. Alors, ça déstabilise encore la situation qui est déjà assez chaotique.
Parlez-nous d'une publicité qui met en vedette des personnes âgées qui incitent les jeunes à ne pas voter.
Oui, on dit des fois les jeunes font le contraire de ce que vont dire peut-être les grands-parents ou les parents, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est une publicité qui a été faite en 2018 pour l'élection de mi-mandat, qui a été remise au goût du jour. Je vais vous laisser l'entendre dans un instant, mais juste pour vous mettre en contexte, c'est vraiment des personnes âgées qu'on voit parler à l'écran pendant environ une minute. Ils sont un peu avec un ton baveux envers les jeunes électeurs américains pour les inciter, vous allez le voir, à la toute fin, à aller voter. Je vous laisse entendre la publicité.
Voting might be hard this year,
but we're good at doing hard things.
Like winning world wars.
But you? And your country asked you to skip one spring break.
And you couldn't fucking do it.
So are you really going to vote?
Nope. You'll post a righteous meme on TikTok.
Retweet a sick burn.
Jump on some trending hashtag.
Well, you can have the internet. We'll keep the country.
C'est très drôle.
Oui.
Alors, admettez-le, quand même, vous qui êtes jeune.
Oui, mais
Valérie,
moi,
des vieux schnocks qui disent, nous, on a gagné des guerres. Vous avez de la misère à dealer avec des réseaux sociaux.
Oui, et dire, on vous a demandé de rester chez vous pendant le spring break et vous êtes allé à l'extérieur. Donc, imaginez si on vous demande d'aller voter. Alors, je trouve ça assez sympathique. C'est de dire, ben, finalement, nous, on va décider encore une fois parce que les jeunes sont souvent minorités lors des votes.
On termine rapidement. Valérie, c'est cette semaine, on va surveiller ce débat télévisé, bien sûr, entre Joe Biden et Donald Trump. C'est quand?
C'est le 29 septembre. Ça va être des 21h jusqu'à 22h30. Et c'est très intéressant. C'est avec Chris Wallace, qu'on sait, qui a interviewé le président il n'y a pas très, très longtemps, de Fox News, qui va être le modérateur. Donc, on va parler d'économie, de nomination à la Cour suprême, de politique étrangère et de beaucoup d'autres sujets. Donc, ça va être le premier affrontement entre les deux candidats. J'ai vraiment hâte de voir ça.
Mardi soir. Merci beaucoup, Valérie Beaudoin.
Avec plaisir. Bonne journée.